Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós, Passagem de Nível, deste domingo, dia 17 de Abril, aqui vai a emenda Mémoire Portuguesa, dia 20 de Abril, às 19h30, no Museu Nacional de História de l'Immigration, com a projeção do documentário Nous sommes venus, o mais recente trabalho de José Vieira. Connosco teremos também o realizador Hugo dos Santos. Homenagem ao fotógrafo Gerald Blanco, no dia 22 de Abril, na Sociedade de Geografia de Lisboa. Depois falaremos do livro Exilé, témoignage d'exilé de déserteur portugais, edição Chondenha, tradução de Irlan Nunes, que vai ser apresentado no dia 21 em Paris 11 e depois no dia 22 em Nanterre. E sem esquecer a temporada cruzada França-Portugal, as edições GS Compete, que estão a festejar os seus 30 anos, vão publicar vários romances e ensaios de autores portugueses. Sem esquecer que a canção Carte Postale Lalice, do autor, compositor e intérprete Danninger, fez parte do programa musical de cerimónia alusiva ao centenário da Liga dos Combatentes, que é vulgar no dia 9 de Abril, em Vila Nova de Gaia. E música igualmente, mas através do primeiro CD do Vasco Pimentel Trio, e dentro de alguns instantes nós contamos felizmente falar dessa projeção do filme Nous sommes venus, na medida em que se trata de um vai e vem, a relembrar precisamente através de um documentário, com imagens evidentemente, a chegada dos portugueses aqui e aqui o que se passa com a chegada de outros imigrantes agora nestes anos que passaram, na medida em que precisamente é a memória, e como diz o José Vieira, como é que se pode contar um acontecimento do qual não temos absolutamente recordação nenhuma? A única forma é precisamente procurar a nossa história na história dos outros. Entretanto, e a propósito, isto tem a ver com o tema precisamente da vinda aqui, vamos ouvir Luís Cília, do Meu País, dentro de alguns instantes, precisamente. Luís Cília, vamos à música Luís Cília, com o título Meu País.
Meu país, meu país, do céu límpido calmo, de campos cultivados, de praias e montanhas. Ouço a tua voz triste, ó meu país sem culpa. Ouço-a nos dias maus, no amanhecer cinzento, e é para ti meu canto, a minha esperança. Meu país, onde a traição domina e o medo assoma nas encruzilhadas. Meu país de prisões e covardia e de ladrões de estrada. Meu país de operários, cavadores, marinheiros. Meu país de mãos grossas, plebeu, sensual, resistente, é para ti meu canto, a minha esperança. Meu país, levanto a minha voz sobre o silêncio desta noite de angústia e de medo. nada pode calar. O nosso riso aberto.
O que estamos a ouvir é o tema do filme O Salto, que foi 1967, já data esse filme. Olha, quando se fala de salto, não podemos esquecer, evidentemente, toda a reportagem fotográfica que foi feita por Gérald Blancourt. Gérald Blancourt, que vai ser homenageado na Cidade de Geografia de Lisboa no próximo dia 22 de abril, sexta-feira. Connosco temos a Pacide Peixoto. Pacide Peixoto, muito boa tarde. Foi o fundador da Associação Memória das Migrações. Ora, quando se fala de Gérald Blancourt, eu estou a recordar diversas entrevistas que fizemos aqui com ele e consigo, de maneira que era uma pessoa extraordinária e que ele tinha um imenso respeito pela comunidade portuguesa. Não?
Sem dúvida, o Gérald Blancourt era um, mais que um português, era um, tanto um estrangeiro, um francês, de origem haitiana, mas era um homem que adorava os portugueses, a história de Portugal, e por isso andou aqui, quando, tanto nos bidonvilles, a fotografar os portugueses. Foi isso que nós espalhamos aqui um bocado por toda a França, que chegou também a Portugal. Aliás, ele também andou a fotografar em Portugal. Depois foi também fazer lá o 25 de Abril. Portanto, foi um homem extraordinário para a nossa comunidade e para a nossa história.
Gérald Blancourt faleceu no dia 29 de outubro de 2018. Posteriormente, precisamente, a Mairie do 11º Bairro organizou 7 exposições à volta da casa dele. Aliás, uma coisa extraordinária. Mas, relativamente a esta homenagem, ao que parece, tudo começou, ou tudo partiu, da exposição que teve lugar na Porte d'Orée, não foi?
Esta homenagem, não.
Não, é homenagem, não, mas, enfim, há que ver que tudo que...
O conhecimento do Blancourt, bom, ele já se conhecia um bocadinho em Portugal, no Museu do Beira. Tinha saído e tinha saído um livro sobre a portuguesa, a menina, a boneca de Chantilly. Eu conheci o Blancourt em 2009. E foi até por azar que eu conheci o Blancourt, porque nós estamos a organizar uma semana cultural em Viroflé. E eu, como sou de Faf e tinha criado lá o Museu de Imigração, sempre lutei um bocado para a expansão e os conhecimentos da imigração. E então tínhamos apresentado o tema Os 25 anos do sonho português. Mas essa exposição, cheguei a ir a Portugal a ver se a trazia, não consegui. E cheguei aqui na semana mesmo, no princípio da semana que íamos apresentar essa Semana Cultural, a minha amiga, que era jornalista, que era amiga da Carina Branco,
Carina
ela
Branco.
Disse-me, olha, telefonou ao Blancourt, ele tem lá fotografias dos poesias. Eu disse, ah, bem, não me conhece, como é que eu... Portanto, ela deu-me o telefone, telefonei-lhe às 10 horas, ele respondeu, disse, quando é que pode vir? Posso vir agora, porque nós estávamos com a corda ao pescoço por causa da exposição, não tínhamos exposição a verdadeira, estávamos a fabricar outra coisa. E então, lá fui eu à casa dele, tem uma direção, fui à casa dele, às 11 horas da manhã, saí da casa dele, tomei um café, pegou-me um café, e uma exposição de 40 fotografias, 41 fotografias debaixo do braço. E foi desde aí que apresentámos a exposição dele na Semana Cultural. Fizemos ali, tínhamos previsto conferências, e dali veio o Museu de Imigração de FAF, também que tinha sido convidado, e foi nesse momento que o Geraldo Bloncourt disse, quando o presidente da FAF falou, ele levantou-se e disse: eu vou oferecer 100 fotografias ao Museu de FAF, certificadas. E desde aí, o Daniel Vaz tinha vindo apresentar o museu, houve uns conhecimentos, um alargamento, e nunca mais parámos durante 10 anos, até ele falecer.
Com efeito, e esta homenagem é bastante importante. Contamos ainda, até o final da emissão, a podermos ter Maria Beatriz Rocha Trindade, porque, bom, ela é professora de catedral, de todo o trabalho que ela tem feito de investigação relativamente
excelentíssima senhora também acompanhou muito aqui o percurso do Bloncourt. Andemos aí, demos bem umas voltas largas por todos os lados. Ela teve a honra de estar presente quando foi a entrega da medalha pelo Presidente da República ao Geraldo Bloncourt em Champigny, na associação do meu amigo Valdemar Francisco. Foi muito extraordinário. Talvez desse percurso que eu, para mim, ele era. Éramos como irmãos, andávamos para um lado, íamos à rádio uma vez, íamos cheios de fome, pá, nem sabíamos onde comer. E assim, olha, vamos lá, lá fomos nós aí para o Armação, lá encontramos um tascozito, lá nos comemos, fantástico, foi tudo.
Presidente, peixe, muito obrigado. Relembro, foi o fundador da Associação Memória das Migrações, e não desistimos ainda de poder falar com Maria Beatriz Rocha Trindade. Muito obrigado. E relembro a homenagem, precisamente, a Geraldo Bloncourt, dia 22 de abril, em Lisboa, na Sociedade de Geografia de Lisboa. Obrigado, presidente,
obrigado,
peixe, e até
Isabel.
Muito breve.
Então.
E já que estamos a falar de memória e memória, precisamente, e falei de Porte d'Orée, que diz Porte d'Orée, diz justamente o Musée National de l'Histoire de l'Immigration, Avenue Dominée, Paris 12e. Hugo dos Santos, bonjour.
Bonjour, bom dia.
Oh, bom dia. Obrigado. Bom, continuamos em português, então. O dos Santos, Mémoire Portuguesa, isto no quadro da Residence Frontière 2021, em parceria com o Le Grec, precisamente no dia 22, às 19h30. Talvez valha a pena, Hugo dos Santos, de explicar um bocadinho qual é o objetivo destas memórias portuguesas.
Eu tive a fazer, como realizador, tive a fazer uma residência artística o ano passado, em 2021, no Museu Nacional de História da Imigração. Tive que fazer em 6 meses uma curta-metragem que eu escolhi fazer sobre o bairro social onde cresci, nos subúrbios de Paris. E no quadro da residência tinha a oportunidade de criar ou eventos, ou workshops no museu, e infelizmente com o Covid não conseguimos fazer tudo o que queríamos, e uma das coisas era fazer um trabalho sobre o José Vieira, porque é uma pessoa, que é um realizador que influenciou várias gerações de realizadores que trabalham sobre imigração, e nomeadamente sobre a imigração portuguesa. E então naquela altura escrevi um texto que foi para o site do museu. Fizemos assim um trabalho também sobre arquivos, que fomos em linha naquele momento, e emiti a ideia de projetar o último filme dele. Não foi possível naquela altura por causa do Covid, e então vamos projetar este filme agora, e pronto, que é um ótimo filme, e que já foi premiado. Já passou por vários festivais e foi premiado em Clermont-Ferrand.
Uhum. O dos Santos, relativamente ao seu trabalho, trata-se do projeto Transit, e em princípio é um filme que poderemos ver no mês de setembro, é isso?
Sim, a ideia é que agora estamos a competir para festivais, estamos a mostrar a tentar mostrar o filme em festivais, e que só a partir do ano que vem, depois do verão, é que vamos poder exibir para um público, entre aspas, normais, porque os festivais exigem ser a primeira estreia do filme, ou mundial, ou europeia, ou francesa, ou portuguesa, assim, umas regras às vezes um bocado absurdas, mas que faz que ainda não posso mostrar oficialmente o filme para todos os públicos, assim, de forma aberta.
Hugo dos Santos, normalmente deveríamos ter connosco José Vieira, precisamente, provavelmente há problemas a nível de telefones, mas enfim, no Somme Venu, precisamente é o último trabalho de José Vieira, e é bastante importante porque há uma frase, penso que ele disse, eu vou lê-la em francês, talvez já resuma isto, 2015, des trains sont pris d'assaut par des réfugiés, je crédite ces images de gens en fuite à mon histoire, j'avais 7 ans quand j'ai passé la frontière le 23 janvier 1965 à Andaï, dans ma mémoire, nulle trace de mon arrivée en France. Comment raconter un événement dont on n'a aucun souvenir, sinon en cherchant notre histoire dans celle des autres? Hein? De maneira que, com efeito, bom, José Vieira levanta aqui um problema que é uma coisa bastante importante, todos dizer que eles foram obrigados a emigrar, não?
Sim, sim. A ideia do. Quer dizer, o filme do José Vieira, que já fez vários filmes sobre imigração, este aqui é mesmo de trabalhar sobre a chegada ou o acolhimento. Como é que os imigrantes chegam? Como é que é chegar, passar a fronteira e estas coisas. Então ele cria um paralelo entre a imigração portuguesa, vamos dizer, a imigração que ele viveu, a experiência que ele viveu de chegar aqui com miúdo, e a experiência de imigrantes que chegam hoje. E, aliás, que passam pelas mesmas fronteiras, porque ele volta ao País Basco e mostra como funciona agora. Não vou revelar nada do filme, a dizer que ontem era, na época da imigração portuguesa, era muito difícil, mas que hoje ainda é pior. É isso um bocado, é uma comparação que só vale durante um certo momento, porque a situação de hoje ainda é pior, infelizmente.
Sim, com efeito, e ele levanta o problema, quer dizer, é uma questão de memória, finalmente. O filme de Somme Venu é a memória da imigração, de uma certa forma. Porque parece que concede uma das coisas que se passaram e as pessoas têm dificuldades ou não querem compreender, mas infelizmente, bom, se as pessoas emigraram, havia uma razão. E hoje não, parece que se reconhece menos a razão da imigração, ou porque a França na altura precisava de mão de obra. Como é que o Hugo dos Santos vê isso?
Sim, eu acho que é essencialmente o problema do acolhimento. Porque o acolhimento em França sempre foi mau, ontem como hoje. Quando falo de um acolhimento que foi mau, estou a falar do Estado francês, não estou a falar dos franceses, não. Que eu faço uma grande diferença entre as duas coisas. Mas naquela época o patronato francês e a França precisava de mão de obra. Então fechavam um pouco os olhos sobre a chegada dos imigrantes. Mas fechar os olhos não quer dizer que ajudava, que era complicado. A questão dos papéis, a questão do alojamento, a questão dos direitos laborais, por exemplo, são coisas que na época eram muito, muito complicadas, que a maior parte dos portugueses viveram estas dificuldades. Hoje em dia, os migrantes que há mais desemprego e, pronto, e a pressão sobre esta mão de obra é mais forte, é mais complicado. O racismo é um pouco, vamos dizer, talvez seja mais agressivo. E então traz o facto que os imigrantes são caçados, literalmente, nas ruas, por exemplo, de Paris, ou das grandes cidades, ou nas fronteiras. Quando naquela época, não se pode dizer que havia assim uma caça sistemática aos imigrantes, legais ou ilegais, aliás. E eu acho que isso é a diferença. Eu acho que houve uma evolução da sociedade francesa, houve também uma falta de mão de obra que é menos forte, vamos dizer, e há uma pressão também, talvez de forma global, sobre os trabalhadores, porque, por exemplo, que é o caso conhecido de haver ainda muita mão de obra sem documentos que é usada em França. Só que, como os sindicatos agora trabalham muito mais com os imigrantes, é preciso exercer uma pressão muito, muito grande, uma pressão muito grande sobre esta mão de obra possível. É assim que, por exemplo, o Parlamento francês passa às vezes leis bastante duras sobre imigração, mesmo que, acho que há menos de 10 anos, houve um caso que o Parlamento estava a ser renovado por trabalhadores sem documentação. O Parlamento francês, pronto, é este paradoxo. Mas eu acho que também é o signo de uma pressão global maior sobre os trabalhadores.
Mas a esse propósito, dos Santos, Nicolas Sarkozy tinha o hábito de ir a um restaurante, ainda aí, evidentemente, não é? E na cozinha estavam, precisamente, estrangeiros indocumentados. E a CGT pegou no assunto, eles foram rapidamente regularizados.
Enfim. Sim, sim, porque pronto, é um paradoxo que não pode aparecer na comunicação oficial dos homens políticos.
Ora, o dos Santos, eu lembro, faz parte igualmente de Mémoire Vive, Memória Viva, de maneira que todo este trabalho que já realiza, já há décadas, José Vieira, é muito importante para Mémoire Vive, porque vocês estão a trabalhar também, penso eu, com Nanterre, não é? Com a Biblioteca Contemporânea, não é?
Nós temos um trabalho extenso sobre imigração portuguesa, seja a nível da recolha de arquivos ou de entrevistas, depois de trabalhos específicos sobre várias temáticas. Ultimamente fomos um pouco mais conhecidos nos mídias por causa do nosso trabalho sobre o exílio mais político, vamos dizer, sobre a deserção das guerras coloniais, que era uma temática que era pouco conhecida do grande público. E neste trabalho todo o José Vieira está na origem um pouco, porque o José Vieira não se criou com outras pessoas à Associação de Memória Viva, mas é também que desde os anos 80, através do que ele escreveu, dos filmes que ele fez e das iniciativas associativas ou políticas também, serviu de veículo para uma forma diferente, mais crítica de ver a imigração portuguesa. E esta forma mais crítica, e acho que é uma forma de encarar as coisas, o que se passou, vamos dizer, que se encontra no trabalho da Memória Viva. Mas não é pensamento só do José Vieira, podia citar o Albano Cordeiro, muitas pessoas que contribuíram para isso, mas ele serviu, o trabalho dele serviu mesmo de vias de comunicação, de exploração deste pensamento mais crítico sobre a imigração.
Com efeito, ainda estou recordado do documentário Weekend on Tose Manitos, de Tose. Isto é um surnom que os franceses também davam aos portugueses, não é? Eu sei que quando isso foi projetado nas associações deu um debate enorme, mas enfim, para já, agora vai ser Nous Sommes Venus, o último trabalho de José Vieira, que será apresentado na quarta-feira, dia 20 de abril, às 19h30, no Musée National d'Histoire de l'Immigration, 293 anos de Menil, o metro mais próximo é Porte Doré, e depois no final haverá um debate no qual o Hugo Santos igualmente vai participar com o José Vieira.
Eu estarei presente, mas o que é importante é mesmo o facto de estar lá o José Vieira. O José Vieira não está sempre depois das projeções dele, é uma coisa que é rara, e é uma palavra que é muito verdadeira e interessante. Então eu chamo um pouco os auditores para o facto de ter a oportunidade de ouvir José Vieira falar depois do filme, acho que e de colocar perguntas, acho que é uma coisa importante. Eu estarei lá, mas a ideia de estar lá é mais que eu é que fiz o convite para José Vieira vir a apresentar o filme.
Eu sei que José Vieira prefere falar através daquilo da realização dos filmes que ele faz. Hugo dos Santos, muito obrigado e damos encontro então na quarta-feira na Porte d'Orée a partir das 19h30. Muito obrigado. E voltamos aqui ao direto, mas desta feita vamos falar de música, música nem mais nem menos, e de quê? Da Mísia. Mísia, precisamente, que vai publicar um álbum no final deste mês, dia 29. O título do álbum é Animal Sentimental. Entretanto, houve o segundo single que já anda para essas redes sociais afora, incluindo aqui na Rádio Wolf, evidentemente, que é Sacado com Quererte. Mísia.
Junto, ay, 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 que he sacado con los nombres, ay, 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 estampados en el muro, ay, ay, ay. Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Sacado por el lirio, ay, 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 que plantamos en el patio, ay, 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 no era uno el que plantaba, ay, 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 eran dos enamorados, ay, 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 hortelano tu plantío, ay, ay, ay. Cambiado, ay, ay, sombra, ay, 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 el aroma por testigo, ay, 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 y los cuatro pies marcados, ay, 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 en la orilla del camino, ay, 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 he sacado con querer. El blanco lirio, ay, 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 los dos nombres en el muro, ay, 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 y tu rastro en el camino, ay, 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 pero tu paloma ingrato, ay, 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 ya no arrullas en mi nido, ai, ai, ai.
Mísia com o segundo single do seu álbum Animal Sentimental, que vai começar a ser distribuído no dia 29 de abril. E, entretanto, um sétima data, o 48º aniversário do 25 de abril, aproxima-se, a que não esquecer, e precisamente vai haver, como já é hábito, um desfile onde em Fontenay-sous-Bois. Estas cerimónias são legadas do dia 22 ou 24. Mas antes do 22, já iremos igualmente, na quinta-feira, dia 21 de abril, às 20 horas, na Livraria Quilombo, que precisamente vai ser apresentado Quilombo. Talvez seja dar a pronúncia em francês, le livre Exil et témoignage d'exilés de déserteurs portugais, e depois, après, le vendredi 22 à 19h, ça sera le tour de Nanterre. Vitor Pereira, bonjour.
Bonjour.
Alors, on a déjà parlé de cette publication des éditions Chandaigne, traduction d'Igle de Nunes, justement. Alors, ce n'est pas pour rien, et je reviens à ça, parce qu'il y a votre préface, justement, qui situe politiquement, disons, pour que les gens comprennent mieux le contenu des témoignages qui sont publiés dans ce livre.
Oui, l'idée, c'était de... que les personnes, vu que c'est une traduction en français, que des personnes qui peut-être ne connaissent moins bien cette histoire, de la désertion des réfractaires et des guerres coloniales portugaises puissent se situer à la fois dans l'histoire du Portugal, dans l'histoire de la décolonisation, mais aussi dans une histoire plus générale, qui est l'histoire des mouvements qui ont lutté contre l'impérialisme, donc c'est au même moment que la guerre au Vietnam, par exemple, et donc pour essayer de se situer dans une histoire plus large dans laquelle ces différentes hommes et femmes se sont inscrits.
Alors, il y a le contexte aussi, bon, parce qu'il y a des chiffres, maintenant, ça commence à sortir, hein, c'est pour ça que l'association des prisonniers et des portugais qui ont déserté, et pas seulement ce travail de la PEP 71-74, justement, c'était un travail de mémoire, mais en même temps, c'est peut-être pour rappeler au Portugal ce qui s'est passé. On parle de plus de 200 000 jeunes, soit qui ont déserté, soit qui ont dit non à la guerre coloniale, et pendant longtemps, ça a été un tabou au Portugal, parce qu'on considérait ces jeunes comme des traîtres à la nation. Ça veut dire beaucoup de choses.
Tout à fait, c'était à la fois pour la dictature, c'était les traîtres, ceux qui refusaient de défendre ce qui était considéré comme un patrimoine sacré qui avait été légué par les grands navigateurs au XVe siècle. Et l'identité nationale portugaise à partir du XIIe siècle, avec des personnes comme Camões, avec les guerres de ce qui était appelé de guerre de pacification à la fin du XIXe siècle, avec les Mozing de Bukerque, etc. Donc c'était nié cela, mais aussi, ce que dans le livre on voit dans plusieurs témoignages, c'est que même au sein de l'opposition, la position vis-à-vis de la désertion n'était pas si aisée, parce que un parti comme le Parti communiste, lui, était plutôt pour que les sympathisants et les militants fassent la guerre, non pas pour défendre les guerres coloniales, et non pas pour défendre les colonies, mais pour être au plus près du peuple portugais, et pour essayer d'expliquer aux jeunes soldats, en Angola, en Guinée, en Mozambique, que la guerre était injuste, qu'elle était la guerre du capitalisme, qu'elle était la guerre du fascisme, et essayer de leur donner une conscience politique. Et donc le Parti communiste portugais n'invitait pas vraiment ses militants à déserter, et donc certains, quand ils désertaient, c'était à la fois contre la dictature, mais aussi contre cette posture et cette tactique du Parti communiste portugais.
Alors, dans 13 témoignages dans ce livre, Exil, entre autres, il y en a un de Manuel Tavares, un, deux et trois exils. Pourquoi ? Justement, le Portugal, le Brésil, le Chili, la France, c'est tout un périple. C'est incroyable, celui qu'a vécu Manuel Tavares, qui a vécu aussi la dictature au Brésil, après Pinochet au Chili, et finalement, il est arrivé en France, mais lui, il est passé à Salt, lui, ça a été différent.
Oui, tout à fait. Alors lui, c'est un cas, j'imagine qu'il n'y en a pas des centaines comme celui-ci, qui quitte le Portugal pour aller faire des études, continuer ses études de médecine au Brésil, et qui ensuite, comme vous l'avez dit, est confronté à la dictature au Brésil, puis au Chili, puis réussit à quitter le Chili, comme d'autres militants qui étaient proches du gouvernement d'Allende, pour se rendre en France. Et donc lui, il arrive relativement tardivement en France. Mais c'est une histoire très internationale et transnationale. C'est-à-dire que il y a certes des gens qui ont quitté la Sarthe et qui sont venus en France, mais d'autres qui sont allés en Belgique, qui sont allés en Suède, aussi en fonction des pays qui étaient plus ou moins accueillants pour ces jeunes gens. Et des paradoxes, une des ironies, c'est que c'est un des pays qui était les moins accueillants dans le sens de reconnaître que ces gens avaient fait un acte politique contre une dictature, donc la France, qui ne donnait pas statut de réfugié et qui, certes, avait besoin de main-d'œuvre, donc les acceptait en tant que main-d'œuvre, mais ne les acceptait pas en tant que jeunes gens qui refusaient une guerre et qui luttaient contre une dictature. Tandis que la Suède, par exemple, était bien plus accueillante en permettant à ces personnes d'avoir un statut qui les protégeait contre l'arbitraire, contre d'éventuelles expulsions.
Il y a d'ailleurs Manuel Tavares, bon, au Portugal, il suivait il a fait des études de médecine, mais ici, ils ont, bon, ces deux années de médecine, donc d'études, n'ont pas été reconnues. Alors, il y a aussi un témoignage très important de Anne Benevent, fuir le destin contre la dictature. Mais Anne Benevent soulève un problème, il n'est pas possible de parler d'exil sans parler des femmes. Et ça, c'est quelque chose, bon, il y avait les déserteurs, il y avait les réfractaires, etc. Mais il y avait aussi des femmes, mais pas seulement celles qui étaient obligées de partir du Portugal pour des causes politiques.
Tout à fait, c'est souvent un des grands oublis quand on traite de l'exil, c'est de penser toujours l'exil au masculin. Et quand on... Alors, soit on parle pas des femmes, ou très peu, soit on les réduit à la figure de celles qui accompagnent, l'épouse, la fiancée, la fille, donc celle qui suit. Et en leur retirant complètement de, à la fois, le fait que beaucoup de femmes avaient des opinions politiques, elles ont fait, elles ne faisaient pas que suivre, elles étaient très souvent actives dans le livre. Il y a plusieurs portraits de femmes, qui, souvent la mère ou la grand-mère qui soutient l'acte, qui est un acte extrêmement grave, extrêmement important, de déserter. Et donc, dans le livre également, donc il y a ce témoignage, et il y en a d'autres, qui essayent de remettre rendre un peu justice aux femmes en tant qu'actrices de l'histoire et même d'un mouvement qui est surtout lié à des hommes parce que c'est les réfractaires des déserteurs, donc c'est lié à l'armée, et donc à l'époque c'était surtout une histoire d'hommes, mais et qui montre leur rôle extrêmement actif dans l'organisation des départs vers l'étranger, mais aussi dans le soutien, notamment dans le comité des déserteurs et des réfractaires, et qui n'est pas du tout un rôle de suiveuse ou complètement passif.
Oui, ça, et en même temps, bon, il y a Anne Benevent, elle parle de ça, justement, le MLF, donc les femmes bon, qui étaient là pour des raisons diverses, les femmes d'origine portugaise, elles sont impliquées aussi dans les mouvements sociaux et pas seulement.
Tout à fait dans les mouvements sociaux. Après, c'est souvent, il y a même dans les milieux d'extrême gauche qui étaient plutôt pour l'émancipation féminine, il y avait néanmoins des tâches différentes qui a été alloué à telle ou telle personne en fonction de son sexe, mais dans ces mouvements, il y avait un ensemble de tâches de participer à la conception des journaux, des publications, à s'occuper des lieux où les personnes arrivaient, à organiser éventuellement des fêtes pour essayer de mobiliser les Portugais, mais aussi d'avoir un peu d'argent pour la structure. Beaucoup de tâches qui étaient effectuées partiellement ou totalement par des femmes.
Alors dans les témoignages, dans les 13, hein, parce que ça c'était bon, c'est vous avez récupéré, il y a déjà deux tomes maintenant, et même un troisième tome justement de mémoire d'exil qui ont déjà été publiés. Parmi les témoignages, il y a celui d'Antonio Tope. C'est-à-dire que bon, certains témoignages, bon, ils parlent politique, etc., des idées, mais Antonio Tope, bon, c'est pas pour rien non plus qu'il est poète. Il a choisi un autre regard. Justement, quand il a décidé de partir, sa mère, son père, etc. Parce que ça, c'est le fait de dire, bon, je pars. Bon, il faut le faire quand même. Donc, c'est, il va y avoir une rupture. Et ça, quand il y a des témoignages comme ça, sont très importants. Parce que finalement, il n'y avait pas que des idées politiques, parce qu'on était impliqués pleinement, non?
Tout à fait. Il y a, d'une part, le recueil essaie d'avoir des regards un peu différents dans le style d'écriture et dans le style d'expérience qui a été. Et effectivement, il y a à la fois les idées politiques qui ont fait que ces jeunes gens ne voulaient pas combattre en Afrique, mais ce témoignage, ce que d'autres témoignages ont été sur l'avant, c'est que c'est une rupture extrêmement profonde. Maintenant, a posteriori, on sait qu'il y a le 25 avril et que ces gens ont pu, après parfois de longs processus avec l'armée, régulariser leur situation vis-à-vis du Portugal. Mais pour beaucoup d'entre eux qui étaient nés alors que Salazar était déjà au pouvoir, les jeunes gens qui étaient nés dans les années 30 et 40, le fait de quitter le Portugal à cette époque-là pour pas faire l'armée était conçu comme un départ sans retour, en fait. Et donc avec l'incapacité, peut-être, de revoir sa mère, son père, sa grand-mère, son grand-père, etc. Surtout notamment de jeunes gens qui venaient de milieux pauvres, dont maintenant on circule très facilement entre la France et le Portugal. Mais à l'époque, un certain nombre de familles n'avaient jamais quitté, ne pouvaient pas aller faire du tourisme pour aller voir un fils ou un petit-fils en France. Et donc c'est notamment cette rupture et ce doute d'un éventuel retour qui est mis en avant dans ce texte et dans d'autres.
Et en même temps, il y avait aussi une précarité dans la mesure où on était, c'est-à-dire on était suspect, parce que bon, et d'une part, et d'autre part, c'est que bon, on risquait toujours de se faire expulser. Et ça paraît aussi dans des témoignages justement, et surtout ici en France. Ici en France, bon, il y avait la pide, il y avait tout ça. Donc, d'un moment à l'autre, on pouvait être repatrié au Portugal avec tout ce que cela impliquait. Donc, une instabilité de plus au-delà de l'exil.
Tout à fait, c'est une des choses que pour lesquelles ont lutté un certain nombre de déserteurs et de réfractaires, mais aussi de leur soutien qu'ils ont trouvé en France, notamment de l'association qui s'appelait la CIMAD, qui s'appelle toujours la CIMAD,
oui, tout à fait.
Et qui avec notamment avec une personne qui s'appelait Helena Scob, qui était principalement celle qui aidait les jeunes Portugais qui arrivaient pour leur trouver un logement, pour leur trouver un emploi, pour les aider pour leurs études, pour les aider dans différentes formalités administratives, et notamment la CIMAD, avec des jeunes juristes, des avocats, dans l'atmosphère post-mai 68, il y a des jeunes juristes et qui ont essayé d'aider les étrangers en situation irrégulière, et face à un arbitraire étatique qui pouvait conduire à leur expulsion, à leur assignation à résidence. Et donc la CIMAD a notamment demandé à un juriste de faire une sorte de note qui montrait bien la situation extrêmement ambiguë de ces jeunes déserteurs et réfractaires portugais, parce que d'un côté, ils entraient en France relativement facilement parce que la France, à l'époque, avait ouvert en grand ses portes pour l'immigration portugaise de travailleurs, donc c'est des jeunes gens qui souvent passaient pour des travailleurs, mais ensuite, quand il s'agissait d'avoir un statut qui les protège et qui n'était pas vraiment le même statut que celui de travailleurs immigrés, là, c'était beaucoup plus difficile. L'OFPRA ne leur concédait pas
l'accès politique.
Le réfugié. Et même, on sent, quand on consulte les archives notamment des renseignements généraux, que les autorités françaises, notamment vis-à-vis de ces, surtout après mai 68, vis-à-vis de ces jeunes gens qui sont peut-être turbulents, qui appartiennent à des mouvements maoïstes, plus souvent, où il y avait notamment un groupe comme la Lioire, etc., les laisser dans une certaine précarité et vulnérabilité administrative avait le rôle d'essayer de les amener à un peu plus de calme politique, ce qui
était toujours réussi,
de retenue, ouais. Parce que ce qu'on craignait, c'est que si on leur donne un statut, eh bien, ou des papiers avec une certaine sécurité, ils profitent de cela pour faire de la politique, chose que les étrangers n'ont pas le droit de faire en France pour respecter l'hospitalité qui leur a été donnée.
Voilà. Victor Pereira, merci. Donc, je rappelle la présentation de Exil, témoignage d'exilés et de déserteurs portugais chez Chandaigne, traduction de Hilda Noon. Justement, première présentation, ce sera jeudi 21 avril à 20h, librairie Quilombo, 23 boulevard Voltaire, Paris 11e. Et après, le 22 à 19h, librairie El Gorba, Mon Amour, se trouve à Nanterre, 148, 152 boulevard des Provinces Françaises. Et il faut dire aussi, bon, vite après, vous allez être présent. Et certains d'auteurs aussi, Antonio Tope, Fernando Cardoso, Vasco Martins, entre autres, sans oublier également Hugo Duchamp, c'est aussi son mémoire vive, avec qui on a parlé tout à l'heure. Donc, on se donne rendez-vous, donc c'est jeudi et vendredi, c'est ça?
Tout à fait.
Merci, Vita Prare. Justement, bon, on parlait d'exilés. Bon, il ne faut pas oublier José Mário Branco, justement, qui était là. Et le film de Pedro Fidalgo, Nelson Guerrero, Mudar de Vida, il tourne actuellement au Portugal. Il sera projeté, justement, le 22 avril à 18h à Casa do Cinema de Coimbra. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Fora este mudar-se cada dia, outra mudança faz demora e espanto.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Et deuxième heure de Passage à Niveau, je rappelle l'émission à une rediffusion la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h. On va quitter la région parisienne, on va aller jusqu'à Montmorillon. Sylviane Sambor, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors avant tout, félicitations, 30 ans que les trompettes.
Oui.
Ça se fête, ça se fête.
Oui, nous fêtons ces 30 ans, d'ailleurs d'une manière un peu singulière, puisque la maison d'édition est née à Bordeaux entre octobre 1991, c'était la date de parution de Saveurs de Porto, le premier livre que j'avais organisé suite à un formidable coup de cœur pour cette ville. Et puis, on considère aussi que la maison d'édition est née en janvier 1993, lorsque Claude, mon compagnon, a pris les rênes de la maison d'édition et a commencé à publier les poètes portugais en janvier 1993. Ce furent Alberto et Nuno Judice, les deux premiers volumes de la collection, on peut appeler ça presque une collection, de la poésie portugaise à l'escampette. Donc pour les 30 ans, on prend son temps, nous prenons également notre temps et nous avons commencé à fêter un petit peu l'anniversaire déjà l'an dernier. Nous allons continuer toute cette année 2022 et puis nous poursuivrons en 2023. Donc voilà, c'est un long anniversaire.
Sylviane Sambor, oui, Claude Roquet, je pense toujours à lui, bon, bref. Et alors, Bordeaux, Montmorillon, Chamusset, sud de la Touraine, Limoges, etc., etc. Parce que bon, là, faut dire, jusqu'au 31 octobre, c'est la saison France-Portugal. Les éditions L'Escampette vont être présentes.
Bien sûr, nous ne voulions pas laisser passer cette saison croisée France-Portugal sans apporter aussi notre modeste contribution, mais toujours déterminée. Donc, nous organiserons un certain nombre d'actions dans ce cadre et à l'occasion de cette actualité franco-portugaise. En particulier, des rencontres seront associées à des rencontres dédiées à l'œuvre et à la mémoire de Eduardo Lourenço, qui a été d'une part un auteur publié à l'Escampette, mais au-delà de ses livres, un immense ami. Donc là, ce sont des moments qui auront lieu en juin, en lien avec le consulat du Portugal, l'association liée à Aristide Sousa Mendes à Bordeaux. Et il y aura des rencontres à Bordeaux, mais aussi à Montmorillon. Voilà. Entre autres rencontres.
Voilà, ça sera le vendredi 24 à la médiathèque de Montmorillon. Alors, Eduardo Lourenço, je cite, hein, pour lui, la culture est un substitut à la transcendance.
Oui, alors, Eduardo Lourenço, en quelques mots, c'est compliqué. Hein. Moi, oui, je sais. C'est vraiment un être humain et une œuvre qui ont profondément marqué ma vie. Je l'ai rencontré à la fin de l'année 1988 à Paris, puis ensuite je l'ai invité à plusieurs reprises dans le cadre du Carrefour des littératures que je faisais vivre à Bordeaux et dans l'ancienne Aquitaine, puis nous sommes devenus très amis. Je lui ai demandé l'un des premiers textes, le deuxième livre de l'Escampette en 1992, c'est un grand livre à mes yeux, c'est le texte que Eduardo a accepté d'écrire sur Montaigne, de la vie de bien des spécialistes de Montaigne, ça reste un texte exceptionnel. Donc il a d'abord été publié en 92 avec un texte d'un spécialiste de Montaigne auquel je souhaite aussi rendre hommage, un grand bibliothécaire, Pierre Bottineau, et des photographies de Jean-Luc Chapin qui photographie en particulier ce qu'on appelle l'exemplaire de Montaigne, c'est-à-dire l'exemplaire des essais qui est annoté de la main même de Montaigne. Et Eduardo Lourenço a écrit un texte absolument génial que nous avons republié à l'Escampette une dizaine d'années après. Seulement le texte d'Eduardo Lourenço. Et donc voilà, ça c'est quelques liens très forts qui me lient à jamais avec Eduardo. Et je veux dire, lorsque il nous a quittés il y a plus d'un an, un an et demi maintenant, je cache pas l'immense chagrin que je porte toujours en moi, parce que ça fait partie de ces êtres humains qui continuent de nous accompagner au-delà même de leur disparition.
Tout à fait. Sans lui, peut-être la culture portugaise ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui.
Ah, complètement. Voilà.
Alors, le 25, là, on parle, c'est le samedi, hein. Là, ça va être cinémo lusitanien et ligérien. Ça mérite une explication, ça.
Oui, alors ça, c'est... Alors, effectivement, le 24 juin, il y aura la rencontre au voyage au pays de la Saudade portugaise à la médiathèque de Montmorillon, avec Michel Chandaigne, auquel je tiens aussi à rendre hommage, parce que sans lui, une partie aussi de mon parcours avec la culture, la littérature portugaise n'aurait pas du tout été le même. Et le lendemain, nous serons tous les deux invités en Touraine, à Chaumusset. Alors c'est une belle manifestation organisée par une association que je ne connaissais pas il y a encore quelques mois, des gens formidables, un petit groupe de personnes tout à fait passionnants, qui chaque année mettent un pays, la culture d'un pays à l'honneur. Et donc cette année, alors pendant toute une journée, c'est au bord de la Loire, dans un petit village effectivement qui s'appelle Chaumusset. Et donc cette année, c'est le Portugal, la culture lusitanienne, et avec des échanges croisés avec la culture et les saveurs du Val-de-Loire, donc la culture ligérienne. Voilà. Donc, j'y parlerai aussi de littérature, de poésie portugaise, d'autant plus que ce sera à l'occasion de non seulement des 30 ans de l'Escampette, mais aussi de la réédition de volumes de poésie portugaise déjà publiés à l'Escampette précédemment, mais qui soit étaient totalement épuisés, soit arrivent à épuisement. D'une part, l'anthologie de la poésie de Flor Bela Espanca, que l'Escampette avait publié une première fois en 1995, et d'autre part, l'anthologie de la poésie lyrique de Camoens. Donc ces deux livres seront à nouveau disponibles à partir du mois prochain, du mois de mai, et nous les présenterons bien sûr lors des différentes manifestations du printemps et de l'été.
Et d'ailleurs, le Flaubert Spink, le livre des chagrins, la préface, c'est d'Albert. Albert, que c'est un grand poète portugais, et que c'est grâce à Les Scampettes qu'on l'a connu en France.
J'ose dire. On s'honore, effectivement, avec Claude Rouquet et moi-même, nous souhaitions absolument que l'essentiel de l'œuvre de Alberto soit traduite. Et publié donc en France, et il y a plusieurs volumes, plusieurs recueils de la poésie d'Alberto toujours disponibles. Vous pouvez les demander à des libraires, c'est magnifique, c'est une poésie accessible qui peut être lue par des lecteurs, à la fois des lecteurs qui n'ont pas l'habitude de lire de la poésie, mais aussi par des lecteurs qui sont des lecteurs familiers d'œuvres poétiques, et c'est magnifique, et c'est une poésie à la fois complètement du XXe siècle, mais qui charrie aussi toute une tradition liée à l'histoire et à la tradition lyrique du Portugal.
Alors, 10, 11 et 12 juin, les rencontres de Montmorillon, littérature et territoire. Et là, je reviens à l'Escampette, parce que entre territoire, les terroirs, la gastronomie et l'Escampette, il y a un mariage heureux.
Oui, c'est une longue histoire. Je sais que l'Escampette est née pour publier un livre dont j'avais décidé de la naissance, et donc un livre qui s'appelle Saveur de Porto. Donc déjà, le mot saveur était inscrit dans le titre de ce premier livre pour lequel nous avons, avec Claude Rouquet, créé la maison d'édition. Donc c'est pas complètement étonnant de 30 ans après de me voir engagée aussi dans l'élaboration d'une nouvelle collection, alors un peu moins littéraire que ce qu'on a fait, qu'on continue de faire dans cette maison d'édition, collection qui s'appelle Saveur et Territoire. Avec des livres, effectivement, dont un récemment publié, qui a pour titre Le goût d'un territoire bien mangé, qui est un peu une façon de montrer qu'on peut très bien manger dans la Vienne, entre Vienne et Gartempe, et puis bien au-delà du local, qui pose la question des nouvelles formes, des nouveaux modèles agricoles plus vertueux, des circuits courts alimentaires, et donc c'est aussi sont des questions de société, éminemment politiques d'une certaine manière, qui sont posées dans ce livre, dans notre rapport à l'alimentation et notre façon de nous nourrir. Voilà. Mais il y a une cohérence. En 30 ans, c'est vrai que la gourmandise, pour moi, reste qui donne du sens à la vie.
Voilà, une façon de vivre aussi.
Exactement. Voilà.
Alors, Sylvain Sambor, bon, on a un mauvais goût dans la bouche, un goût amer, c'est le cas de le dire. Ça, au sujet, maintenant, c'est plus le Salon du Livre, maintenant, ça s'appelle Festival du Livre de Paris. Alors, en 2022, il n'y aura pas les dérisions. Donc, c'est quoi? C'est le comté comptable? Qu'est-ce qui se passe à la tête de ceux qui étaient avant le Salon du Livre? Donc, les régions vont pas être présentes.
Alors, effectivement, là, il y a effectivement des décisions qui ont été prises par un certain nombre de régions, mais ce sont des décisions qui avaient déjà été prises par certaines régions bien avant cette année, à savoir déjà d'autres régions précédemment avaient considéré que les conditions économiques, financières demandées pour participer à cette manifestation devenaient absolument extravagantes, et donc des régions s'étaient déjà retirées précédemment des précédentes éditions. Pour ce qui concerne l'Escampette, c'est depuis longtemps. Après avoir repris les rênes de la maison d'édition après le décès de Claude Rouquet, j'avais tenté de participer une nouvelle fois sur un stand collectif de la région Nouvelle-Aquitaine à la manifestation qui était encore porte de Versailles à Paris. Donc c'était au printemps 2017. Et puis j'ai vite compris que cette manifestation n'était plus du tout adaptée au type de publications qui sont les nôtres. J'avais été complètement frappée par rapport à ce que je connaissais 15 ans avant, de ne plus voir tout ce lectorat, ces lecteurs et ces lectrices curieux qui venaient voir justement les stands des petites maisons d'édition de littérature sur les stands des régions. Ce lectorat avait considérablement déjà diminué, idem pour certains professionnels du livre, bibliothécaires, etc. Donc, bon, moi, personnellement, j'ai pas attendu 2022 tirer certaines conclusions. Bon, c'est très lié à des logiques dominantes dans l'édition, dans le monde du livre, avec le poids des concentrations, de la financiarisation, des choses qu'on trouve dans d'autres secteurs, mais qui s'accentuent dans le domaine du livre.
Alors justement, et ce sera ma dernière question, Sylvien Sambord, il va y avoir une fusion, Edith Hachette. Alors donc ça veut dire que pas mal de maisons d'édition vont passer sur la coupe du groupe Bolloré. Est-ce que ça risque pas de poser des problèmes par rapport aux libertés éditoriales et les libertés d'expression tout court? Parce que bon, donc là forcément c'est pas la logique, ça va être financière et pas celle de faire connaître des auteurs, de pouvoir avoir des littératures et des pensées différentes. Est-ce qu'il y a pas un risque là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bien sûr, il y a un risque. Bien sûr, il y a un risque. Il y a un risque qui s'accentue, la concentration capitalistique dans le monde du livre, qui s'opère déjà depuis plusieurs années. C'est pas tout à fait nouveau. A déjà eu pour conséquence d'éliminer un certain nombre d'ouvrages et donc de voix humaines. Un auteur, une autrice, ce sont des voix humaines qui portent de la singularité, de l'humanité, des couleurs qui peuvent être variées. Bon, il y a déjà pas mal de livres qui n'ont pas vu le jour pour des raisons purement économiques. Pour moi, la pire des censures, c'est celle qu'on ne voit pas, qui invisibilise des livres. Mais là, avec ce qui est en train de se passer avec le rachat d'Hachette, effectivement, par Bolloré pour aller vite, on peut même s'inquiéter au-delà, parce qu'on voit bien comment se comporte Bolloré dans les médias, dans d'autres médias que le livre, en tout cas les médias audiovisuels, et comment certains médias contrôlés par son groupe peuvent être orientés politiquement. Enfin, ça pose réellement des questionnements pour notre démocratie, tout simplement, qui est déjà bien malade. Moi, je suis très inquiète, effectivement.
Sans oublier que le prix de papier augmente et donc c'est une façon aussi de... C'est pas de la censure, mais enfin ça, quand on n'a pas de l'argent, on n'appartient pas à un grand groupe.
Il y a d'autres problèmes effectivement qui accentuent encore les difficultés que l'on peut rencontrer, surtout lorsqu'on est petit et qu'on a des moyens très limités dans cet écosystème du livre, en pleine mutation depuis déjà pas mal d'années. Et le prix du papier s'ajoute nos difficultés, après ce sont des choix. Moi, j'ai fait des choix il y a maintenant 6 ans de ne pas laisser mourir la maison d'édition après la disparition de celui qu'il avait animé avec passion jusqu'à son décès. Alors après, ce sont des choix de vie. Donc c'est aussi, on a besoin quand on fait ces choix de vie un peu militants, parce que publier de la littérature par les temps qui courent, ou même des livres comme ceux de la collection Saveurs et Territoires, quand on est tout petit avec des moyens modestes, c'est difficile. On a besoin de la solidarité des lecteurs et des lectrices. Allez dans les librairies, faites vivre les librairies indépendantes et intéressez-vous à nos livres aussi, en particulier aux très beaux, à tous ces volumes de poésie portugaise traduite en français, des classiques du XVIe siècle jusqu'aux contemporains. Nuno Judice est toujours publié à l'Escampette et je renvoie au dernier livre que nous avons publié, Le Nom de l'amour. Tout le monde, on peut tous agir. C'est comme pour l'alimentation et pour bien d'autres choses. On peut tous agir, tous faire notre part pour essayer de maintenir les conditions d'un équilibre et d'une bibliodiversité vivante, parce que effectivement les menaces sont grandes aujourd'hui.
Voilà. Bon, et surtout, pour acheter un livre, c'est, hein, commander le libraire, ils peuvent l'avoir, le livre.
C'est le libraire, voilà, là aussi.
En moins de 24 heures. Et le prix, c'est le même. Il y a prix unique. Bon,
exactement. Enfin, voilà. Le prix est le même partout.
Voilà. Sylvie Sambor, je vous remercie. Donc, pour nos auditeurs qui veulent savoir davantage sur les œuvres traduites en français par les éditions Les Escampettes, www.escampettes-edition.com. FR.
Sylvain Sambor. Voilà.
Oui. Merci Sylvain Sambor et à très bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Merci.
Bon
merci. E agora, bom, se fôssemos falar da Batalha de Alice, mas ao mesmo tempo tem uma ligação com Portugal, Dana.
Faire parvenir une carte enflammée de mots que je ne peux écrire car mon sort a censuré. Je revois nos nuits d'été à Lisbonne et Coimbra, entre amis attablés, ta douceur dans mes bras. Le président Machado voit ses enfants défiler sous cet arc héros aux côtés des alliés. Dans les Flandres étranchées, dans nos anglaises tenues, bombardées et gazées, la relève n'est pas venue. Nos anglaises tenues, bombardées et gazées, la relève n'est pas venue. Ne m'oublie pas, mon amour, surtout ne m'oublie pas. Notre départ de Cherbourg, hélas, se fera sans moi. Au jardin de la Lys, je pourrais me reposer. Après l'ultime sacrifice, mon corps retrouvé.
Carte postale l'Alice Danninger de Champs. Danninger, bonjour.
Bonjour Arthur.
Alors, et qu'est-ce que ça te fait de savoir cette chanson-là chantée par un ténor, accompagnée à la guitare classique et au piano?
Ah ouais, c'est un grand moment pour moi. C'est je le savais de toute façon avant qu'on ait la gentillesse de m'envoyer la vidéo de ce qui s'était produit donc pour cette cérémonie du centenaire de la Ligue des combattants. Donc j'étais au courant, mais ça touche quand même de voir les mots qu'on a pu écrire dans la bouche de quelqu'un d'autre, et puis bah c'est une sorte de reconnaissance. D'abord pour moi parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais aussi voilà, reconnaissance pour tous ces soldats qu'on avait oubliés petit à petit et qui sont venus se battre dans les Flandres. Mmh.
Voilà, donc ça a été joué pendant le concert solidaire le 9 avril 1918 à Villeneuve de Gaille. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris, parce que bon, toi c'est la guitare, et là tout d'un coup, bon, une guitare classique, un ténor et un piano. Donc forcément, ils ont fait une nouvelle orchestration de ton travail.
Oui, mais enfin bon, ça reste quand même sur un, comment dire, sur une tournerie de valse que j'avais fait. Enfin, j'ai fait exprès d'aller dans ce genre de musique, tout en mettant une petite guitare blues en slide derrière, mais parce qu'à l'époque, voilà, c'était l'invention de la carte postale, la valse qui était plutôt à la mode et tout ça. Donc, il s'est chanté forcément un petit peu différemment, mais je pense que c'est resté quand même assez fidèle. Et puis encore une fois, ça m'a vraiment touché, quoi, qu'on passe un peu de temps à travailler sur ce titre, ça m'a forcément touché.
Et d'ailleurs, t'as édité un single avec Carte Postale de la Lys.
Alors, oui, et du coup, j'ai mis deux chansons qui avaient à voir justement avec, parce que j'avais une autre chanson, donc La Révolution des œillères. Mmh. C'est un jeu de mots, parce qu'à chaque fois on me dit non, c'est pas la révolution des œillères, c'est des œillets. Je dis oui, mais je sais bien que c'est la révolution des œillets, c'est un jeu de mots. Et donc, ça permettait de rendre hommage à ces militaires de chez nous qui ont fait bouger les choses, quoi. Et bon, sur la bataille de la Lys, il y a tout et ses contradictions. Je pense que de toute façon ils ont quand même tenu là pour la bataille de la Lys qui a pas duré un jour mais plusieurs jours. Ils ont tenu là et puis ceux qu'on a fini par appeler les capitaines d'avril. Bon bah voilà, c'était aussi un, et tout ça en avril. Donc je me suis dit je vais faire un single spécialement pour ces gars-là, voilà.
Et voilà, mais revenons hier. Bon. Hier, on met ça aux animaux pour qu'ils ne voient pas sur les côtés.
Alors, des œillères, exactement.
Voilà, oui.
C'est-à-dire que, en fait, le titre, La Révolution des œillères, c'est un Français qui est un ami français qui est parti au Portugal. Et je sais pas, dans l'atmosphère qu'il a retrouvé là-bas, bon, forcément, il connaissait l'histoire de notre petit pays, mais. Il trouvait ça génial de faire une révolution sans une goutte de sang. Enfin, officiellement, il y aurait que un mort ce jour-là. Enfin, bon,
non, il y en a eu quatre ou cinq. C'est la pire qui a tué les manifestants. Enfin.
Et donc, c'est déjà quatre de trop. Malgré tout, pour une révolution, malgré ça, c'est, ils ont vraiment essayé de limiter la casse au maximum. Et donc, il m'a emmené cette chanson, et donc La Révolution des œillères, c'est quand le peuple commence à ouvrir les yeux, parce qu'on a tendance à vouloir tout le temps à formater pour que tout le monde pense exactement pareil, et c'est bien dommage. Voilà.
Alors on sort de registre, bien que la musique est présente aussi, Soldat ici et là-bas. Alors concrètement, donc c'est un théâtre musical. Comment est-ce qu'on peut présenter ça? Alors en résumé, je m'excuse, Dan. Idalio et sa sœur Joanne se retrouvent au Portugal avec leur neveu Manu afin de vendre la maison familiale. Bon, tout part de là.
Tout part de là. Mmh. Voilà, c'est une fratrie. Donc il y a le neveu parce que il y a une des sœurs qui a pas voulu venir de Belgique. Il y a ma sœur et moi qui prends dans cette première partie de spectacle le rôle du grand frère, Idalio. Et donc forcément, le grand frère est né au Portugal et il a du mal, comme il est marié à une Française, il a du mal à vendre cette maison parce que même s'il y vient très peu, voilà. Et donc il y a tout un processus qui se met en place, des choses qui sont dites, qu'on apprend aussi au neveu qui accordait peu d'importance au Portugal, de ses origines, en tout cas dans la pièce. Il s'appelle Emmanuel, et Joanne qui rencontre, bon, je vais pas tout expliquer parce que sinon voilà, il faut venir voir la pièce, mais voilà, et Joanne qui met un petit peu le starter pour faire avancer les choses très rapidement, et ça c'est une partie de la pièce. Et puis après, il y a un espèce de flashback. Enfin, c'est pas un espèce, c'est un flashback où on voit les parents de cette fratrie. Et donc, là, il y a une partie de choses. Moi, je pense que c'est une pièce qui va, dès qu'elle va arriver à Paris, et j'espère très bientôt, parce que on l'a présentée en Normandie à Mont-Saint-Aignan vendredi dernier à des professionnels, des programmateurs. Donc, comme la production est basée à Dieppe, forcément, on travaille assez régulièrement avec la Normandie depuis la conception, la création de cette pièce, qui est mise en scène encore une fois par Alexis Dessault, avec qui j'ai un immense plaisir de travailler. J'apprends plein de choses parce que tu sais, d'un seul coup, c'est un nouveau défi que je me lance, à être j'ai toujours été un peu comédien sur les bords, mais là, il faut vraiment assurer quelque chose. Et cette pièce, donc, d'Isabelle Ribeiro, que tu connais, puisque tu nous as reçus tous les deux, va parler à beaucoup de gens. Il y a beaucoup, je suis sûr qu'il y a, il y a plein de gens, et pas seulement que des Portugais vont se reconnaître sur cette histoire de maisons vendues, les attaches, les liens avec le passé. Et j'ai hâte que ça soit joué partout en France et en région parisienne. Tu sais que bah forcément nos amis portugais sont bien présents sur la région francilienne, et donc j'ai hâte qu'on ait l'opportunité de présenter et de jouer cette pièce ici sur et donc c'est une pièce, oui, mais qui était c'est pas une comédie musicale, loin de là, mais elle est illustrée par des chansons, quelques photographies d'ailleurs pour comme je t'en ai fait part, il y a quelques clichés de Gérald Edmoy. J'ai un problème, pourtant je connais que lui.
Gérald Blanco.
Pardon ?
Gérald Blanco.
Voilà, exact. Merci. Donc voilà, et tout ça, donc tu connais le poids des photos de Gérald, et donc forcément ça apporte beaucoup de il y a des moments très forts, quoi. Il y a des moments très forts, y compris pour nous sur scène. Il y a des fois je peux te garantir qu'on est pris par l'émotion bien des fois, quoi. C'est très touchant.
Voilà, saudade et mémoire, finalement. Bon, on peut, c'est pas un résumé, mais enfin, ça nous oblige à voir tout ça. Mais il y a quelqu'un qu'on peut pas oublier non plus, hein, c'est Simon Gielen.
Exactement. Un jeune Belge d'une trentaine d'années qui s'est lancé dans cette aventure, parce qu'il est surtout musicien, il joue de la vielle, donc c'est un instrument plutôt ancien, et avec un accordéon. Qui n'est pas étranger à la culture portugaise, et qui apporte une espèce de désinvolture d'une troisième génération qui ne connaît pas forcément toute l'histoire portugaise. Alors lui, il n'est pas portugais du tout, mais voilà, il y a en tout cas ça forme une vraie famille, puisque j'ai vraiment l'impression d'avoir adopté un neveu. et donc Isabelle, forcément, ça devient une vraie fratrie, quoi, avec tout ce que ça comporte, et je suis très heureux de cette aventure, et voilà. Et donc je pense qu'on est arrivé à peaufiner le spectacle. C'était dur, hein, on avait tellement de choses à dire, donc il fallait résumer tout ça dans une pièce d'une heure et quart à peu près, et ça n'a pas été chose facile, mais en tout cas voilà, je suis assez fier de ce que ça donne.
Voilà, donc Soldat ici là-bas, l'état d'âme de trois générations sur deux époques. Danningel, merci. Alors, merci la qualité technique, elle n'est pas la meilleure, je m'excuse à vous. C'est toi et Isabelle qui chante. Bon, merci, à très bientôt. Bon, Kansan Duingat, quitte à faire.
Ah, génial.
On y va, c'est parti.
Estás livre, eu sou livre. E há uma noite para passar. Porque não vamos unidos? Porque não vamos ficar na aventura dos sentidos? Tu estás só e eu mais só estou. Tu que tens o meu olhar. Yeah.
desespera do melhor que já não vem. A esperança foi encontrada antes de ti por alguém, e eu sou melhor que nada. Vem com amor, não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem com amor, é o momento em que majou.
Estamos na reta final desta passagem em nível do domingo, dia 17 de abril. Lembro, a emissão tem redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Uma novidade aqui na Rádio Alfa, a Vasco Pimentel Trio. É o primeiro álbum que eles publicam. O título do álbum é um jogo de palavras que eu vou pedir dentro de alguns instantes a Vasco Pimentel de me explicar exatamente o que é que isto significa, porque é que ele colou duas palavras, Walkabout. Aqui na Rádio Alf, Walkabout do Vasco de Pimentel Trio. Vasco Pimentel, muito boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado por estar connosco aqui em direto. Ora, o trio Vasco Pimentel, piano e composição, Rodrigo Correia, contrabaixo, e Diogo Alexandre na bateria. Ora, este trio foi fundado em 2019. Qual é a gênese, finalmente, da criação deste trio?
Ora bem, este trio começou quando eu estava a fazer a tese de mestrado na Escola Superior de Música de Lisboa, em que a minha tese era sobre, sobre um conceito que eu explorei durante o mestrado, que é a ilusão rítmica,
uhum.
e que usei em algumas das minhas composições, e eu chamei estes músicos para fazerem parte deste projeto, e depois decidimos gravar um álbum a partir daí. Mas pronto, basicamente foi assim que começou.
Ora, Vasco Pimentel, eu vou avançar alguns nomes, os nossos ouvintes já conhecem aqui, Bernardo Sassetti, aliás é a música que nos acompanha já há diversas semanas esta parte, Mário Leijinha, Kate Jarrett, precisamente, bom, e podia continuar assim, Avishai Cohen, etc, mas são tudo influências que aparecem depois no seu trabalho.
Sim, claramente. O Bernardo Sassetti foi talvez o primeiro contacto que eu tive com o jazz, ou pelo menos o que mais me tocou, de certa forma, e que me inspirou. E depois, claro, o Mário Lajinha e também o pianista João Paulo Esteves da Silva, que é um pianista muito conceituado aqui em Portugal, e não só. E que foi também meu professor, o João Paulo, durante 5 anos, foi meu professor na Escola Superior de Música de Lisboa.
Uhum.
E depois, claro, uma das minhas grandes influências é também Keith Jarrett e Avishai Cohen, o contrabaixista, que até já os vi em Paris uma vez. E são certamente grandes influências para mim, entre outros.
Uhum. Vasco Pimentel, é verdade que vocês dão prioridade à improvisação?
Sim, claramente. Se eu tivesse que dizer, se calhar uma percentagem, diria que a maior parte da música é improvisada, diria. Talvez 70% ou qualquer coisa do género, diria que... Ou seja, as minhas composições são peças que têm partes escritas, mas a maioria é de facto improvisada, e depois cada um dos músicos dá o seu parecer à música.
Uma coisa extraordinária no jazz é que nós, bom, simples espectadores, bom, podemos conhecer um pouco de música, mas enfim, perguntamos, mas finalmente será que o jazzman, cada vez que eles tocam um título, como está aqui, por exemplo, ou Amália, ou Espaço, ou Devil's Plan, ou Ilha, vocês, cada vez que tocam, é diferente, ou não?
Sim, é diferente, sim. Pronto, isso é uma
especificidade do jazz?
Sim, é uma especificidade do jazz, certamente. Mas nós tentamos ir um pouco mais além na improvisação, no sentido de há momentos em que improvisamos mesmo livremente, ou seja, há momentos da música em que não sabemos mesmo o que é que vai acontecer, improvisamos do zero, digamos assim. E a música, apesar de ter uma estrutura mais ou menos fixa, essa estrutura pode também ser alterada no momento.
Significa, vais comentar, que a partir de uma nota, quer dizer, vocês pegam nessa nota e depois desenvolvem um tema, é isso? Ou não é isso?
Ou seja, isto também depende dos temas, não é? Mas, por exemplo, num tema como o Walkabout, é um tema se calhar mais simples de explicar, quer dizer, tem uma melodia e uma harmonia, e nós improvisamos à volta dessa melodia e dessa harmonia. Mas, por exemplo, no Espaço, existe um momento em que simplesmente estamos a ouvir uns aos outros, eventualmente um de nós dá uma ideia musical e vamos atrás uns dos outros através da música, tentando sempre improvisar no momento.
Ora, Vasco Pimentel, gostaria que talvez explicasse aos nossos ouvintes o que é que significa o conceito de ilusão rítmica.
Sim, a ilusão rítmica, apesar de não ser, não é digamos, a base das minhas composições, mas foi algo que eu explorei e que, e que decidi incorporar na minha música. A ilusão rítmica, eu costumo fazer o paralelo com a ilusão dótica, quando às vezes existem aquelas figuras, por exemplo, que há aquela figura conhecida que se olharmos de uma certa maneira parece um coelho e se olharmos de outra maneira parece um pato. Portanto, acaba por ser dois animais na mesma figura, e há pessoas que só conseguem ver uma das figuras. Na música, ou neste caso no ritmo, acaba por ser... É através da utilização de certos mecanismos rítmicos que podem dar a ilusão de que a música, por exemplo, está a acelerar na verdade o tempo continua igual, por exemplo. Isto é uma das ilusões, é fazer parecer com que a música esteja a acelerar quando na verdade o tempo está no mesmo sítio. Ou então, através da utilização de polirritmos, ou seja, haver vários ritmos ou várias métricas a acontecerem ao mesmo tempo. Basicamente é isso.
Então, significa, bom, agora vou fazer uma comparação com a pintura, é a mesma coisa, não temos duas pessoas olham para um quadro, cada um tem uma vê coisas diferentes, tem uma sensibilidade diferente.
Exatamente, cada pessoa vai criar as suas expectativas e vai ouvir a música de maneira diferente.
Ora, Vasco Pimentel, não sei se a frase é sua, mas enfim, vai-me dizer sim ou não. Walkabout é um trabalho que significa para mim um rito de passagem da minha vida de jovem para uma etapa mais madura.
Sim. Sim, a frase é minha. É isso, portanto, o Walkabout é uma viagem de autodescoberta. De descobrir quem somos, tanto como indivíduos, como neste caso, no meu caso, como músicos, do que é ser músico nesta vida, e a ligação entre a nossa descoberta como indivíduos e a música, portanto, como é que isso se reflete também na música. É sobre isso que é o Walkabout.
Ora, Vasco Pimentel, trio, ao quiser, de maneira que o jazz, os compositores e os músicos de jazz, bom, para trabalharem juntos, para comporem tudo isso tudo, é preciso haver uma grande, grande complicidade, isso tudo. Como é que surgiu, precisamente, esse encontro com o Rodrigo Correia e com o Diogo Alexandre?
Ah, sim. Sim, nós acabamos por ser amigos também, não é? Eles são mais novos que eu, portanto eu tenho 28 anos, eles têm 20, agora se não me engano, 22, não, 20, 23, não, já têm 23, 24, é isso. Ou seja, nós conhecemos na Escola Superior de Música de Lisboa, eu já estava a fazer o mestrado, eles estavam ainda na licenciatura. Eu comecei por conhecer o Diogo, que é o baterista, Diogo Alexandre, porque tínhamos interesses em comum, principalmente na música, tínhamos gostos parecidos. Nomeadamente, por exemplo, gostávamos os dois do Avishai Cohen, o contrabaixista, e até começámos por tocar só os dois música do Avishai Cohen. E depois, às tantas, decidimos que estava na altura de juntar um contrabaixista a este grupo. E um dia eu vi o Rodrigo Correia a tocar numa jam session no Hot Club em Portugal, em Lisboa, que é o clube de jazz aqui de Lisboa.
É o templo do jazz, o templo.
Exatamente. Exatamente, onde eu passei já há muito tempo, desde muito jovem. Sim, e vi-o tocar numa jam e gostei imenso, e fui falar com ele. e pronto, e a partir daí começámos a tocar, eu decidi experimentar tocar as minhas composições com eles e resultou muito bem, e foi assim que nasceu o projeto, basicamente.
Ora, Vasco Pimentel Trio, o Alcabalt, foi editado pelo label Odradec Records. Ora, quando se fala de editar um disco, tem que haver espetáculos. E nós, o jazz em Portugal, bom, falou do Hot Club, isso tudo, havia mesmo um programa de jazz antigamente na televisão. A divulgação do jazz feito em Portugal, como é que ela é feita? Será que é dado o devido valor ou não?
Eu acho que está a crescer. Está a crescer aos poucos e acho que nos últimos anos tem vindo a crescer bastante. Mas pronto, somos um... Portugal é um país pequeno, digamos, mas a cultura tem... Eu sinto que a cultura tem vindo a crescer bastante nos últimos anos. Claro que tivemos aqui este percalço
da
pandemia, exatamente, mas agora as coisas estão a voltar ao normal e acho que eu sinto que há cada vez mais concertos e festivais de jazz, por isso é uma coisa boa. Não sei, comparando com outros países, claro que se calhar é pouco, não sei, mas isto de facto tem vindo a crescer e noto também nas camadas mais jovens, há cada vez mais jovens a tocar jazz. Eu sempre que vou a uma jam session, hoje em dia vejo imensos jovens a irem tocar, coisa que há se calhar 5 anos ou 5, 7 anos atrás não havia. Não. Havia um ou dois. E agora há muitos e que tocam bem.
Mas, vais comentar, um momento dado havia muitos jazzmen portugueses que iam para Berlim, na Alemanha. Porque,
diga.
Um momento dado, muitos jazzmen portugueses iam para a Alemanha, para Berlim e não só.
Sim.
Bom, e mesmo aqui em França, há muitos também que atuaram aqui. Coisas que são muito importantes, ter esse aspecto também da música portuguesa, da criatividade portuguesa. Vasco Pimentel, muito obrigado, e evidentemente à medida que haja concertos e se aproximar aqui para estas terras gaulesas, esperamos que nos diga qualquer coisa.
Claro, eu adorava um dia poder tocar em Paris, certamente.
E aqui temos o Sunset, aqui também temos alguns templos do jazz também aqui na cidade de Paris. Não faltam essas boas moradas, como diria o outro. Vasco Pimentel, muito obrigado, um grande abraço aí para vocês e aguardamos notícias.
Obrigado.
Vocês, então.
Obrigado, obrigado pelo convite. Um abraço.
E estamos a chegar ao final desta emissão. Obrigado ao Manuel Alexandre, obrigado a todos aqueles que participaram queria relembrar, relativamente ao 25 de Abril, a festa da Revolução dos Escravos, de 22 a 24 de Abril em Fontenay-sous-Bois, com desfile, igualmente festival de folclore, e a cerimónia oficial essa terá lugar na sexta-feira, dia 22 de Abril, às 20h30, ao som do quê? Dos bombos de Amarante, nem mais nem menos, e haverá um desfile da Mary até o monumento do 25 de Abril, mas para mais informações podem ir diretamente à Associação Portuguesa de Fontenay-sous-Bois ou então diretamente à Mary, na maneira que o maire e os eleitos municipais de Fontenay-sous-Bois vão estar presentes nesta cerimónia evocativa dos 48 anos do 25 de Abril. Bem-ajam, relembro, Passagem Nível tem a redifusão na noite da quarta para quinta-feira a partir das 00h, e já que falámos com o Vasco Pimentel a propósito do seu primeiro álbum, aqui fica um tema: improvisação. Foi o que tentámos fazer hoje durante 2 horas.
Thank you.